Chapitre 5e. C'était quelqu'un qui croyait n'avoir jamais menti. Il ne bégayait pas non plus. Il ne balbutiait jamais. Il n'employait jamais un mot pour un autre. Il n'avait jamais commis même ce mensonge, le fait qui consiste à appeler garde-feu le pare-étincelle ou lustré, liséré le passepoil. Il évitait de parler des quelques étoiles dont il ignorait le nom. Et quand il disait qu'il bruinait, on pouvait être sûr qu'il s'agissait bien de la bruine, qu'il ne pleuvinait et qu'il ne bouillassait point. Les jours où il sentait sa langue inhabile, il se bornait à parler des objets, des événements qui fournissent sans peine leur vocabulaire, le temps, l'histoire de France, et son langage de malade n'était plus qu'un langage d'enfant. Mais dès sa convalescence, il plongeait dans les dictionnaires de termes techniques, et bientôt, cette inspiration qui saisit les poètes après la lecture du dictionnaire de rimes, lui donnait le nom de chaque courbe dans un péristyle, de chaque nervure dans un stylobate, de chaque brise dans un picot. Il avait même deviné, un superbe soir d'été, sans l'avoir jamais lu ni entendu, le mot « trêcheur fleuronné ». De sorte que, disposant de 60 000 noms pour désigner son univers, alors que les Français, alors que Racine et Bossuet ne disposent pour désigner le leur que de 500 à 1 000, qu'il avait l'impression d'un monde en ordre, d'un grand apaisement, l'impression qu'il pouvait mourir en paix. Il comprenait les tourments moraux de Racine, de Bossuet, abandonné sans vocabulaire devant un siècle si riche en objets ouvragés. Les soirs d'émotion, de détachement, il achevait d'apprendre les différentes parties d'un menhir, les différentes races de chiens, comme notre police et repolice leur testament. Il est doux de mourir en connaissant par son nom chaque pièce d'un menhir, chaque divagation de la race des pointeurs. De sorte aussi que l'univers était recouvert pour lui, plus que pour tout autre, d'une croûte verbale qui lui cachait les gouffres du chaos, et qu'il était optimiste. Pourquoi fallait-il qu'il eût choisi le seul métier où les mots ne soient pas de belles étiquettes, où il se présentait à l'esprit tout mou comme des éponges, et gluant et imprécis? Pourquoi fallait-il qu'il fût écrivain devant les opérations les plus simples de l'esprit, comme la déduction ou la restriction devant les aventures les plus cataloguées du cœur, comme l'émotion au printemps devant la première cerise ou le retour au logis de celui qui retrouve sa femme mariée, il ne disposait plus que d'un langage faux ou des mots réservés pour les opérations ou aventures exactement contraires. Le fait que les Allemands construisent des gares gigantesques adorent l'univers Turathnau, il résumait cela par le mot « mentalité ». Le fait qu'une femme se donne, puis se reprend, se redonne, puis au moment de se reprendre se vend, il le résumait par le mot « d'intoxication ». Le fait que l'Europe passait de l'amour pour la France à la haine pour la France, c'était simplement, d'après le mensonge, un déclenchement. Cela lui valait le plus éclatant succès, et d'être lu et réputé jusque dans le pays de Juliette. On mettrait en prison l'individu qui publierait un annuaire inexact des chemins de fer. Mais l'Académie s'apprêtait pour le mensonge, dont circulaient en France 200 000 indicateurs faux pour l'amitié et l'amour, et, comme on va le voir, la mort. Juliette se rendit chez lui un dimanche matin, unique matin de la semaine où se visitent les artistes et écrivains non catholiques militants. Le mensonge était seul, car il n'était plus assez jeune pour aller voir les écrivains maîtres et pas assez âgé pour recevoir les jeunes. Douce période intermédiaire entre dans la vie des romanciers, qui leur redonne entre 40 et 45 ans les dimanches. Enfance de la gloire. Le Menson était le seul écrivain porté sur le carnet de Juliette, car les Lemençon sont originaires d'Effiard, comme les Montpensier, et d'ailleurs leurs cousins, les Durafort, sont de Moulins, comme les Bourbons. Chaque nom bourgeois au centre de la France s'accouple naturellement à un nom de roi. Il faut dire à son honneur que Juliette avait essayé d'en voir de plus célèbre. Mais elle avait été happée par un chien à la porte du premier. Elle avait glissé dans l'escalier du second. Et devant la tombe d'un troisième, elle avait été coupée au visage par la branche d'un saule. Avec cette morsure qu'elle devait à Anatole France, cet écartèlement qu'elle devait à Bourget, cette égratignure qui lui venait d'Alfred de Musset, toute courbatue par la fréquentation de nos poètes, elle arriva chez le Manson, justement méfiante, fermant les portes de l'ascenseur, appuyant son poids sur la sonnette, prête à l'électrocution. Elle attendit ce temps d'attente nécessaire chez tous les écrivains pour leur permettre d'achever la phrase commencée, si variable selon leur facilité. Elle attendit une seconde et le Manson parut. Si Juliette avait soupçonné de quelle nomenclature précise le Manson disposait pour nommer chaque partie de son corps, car elle avait tenu à prendre son diplôme d'anatomie pour n'en rien ignorer, elle eût été bien confuse. Mais elle s'imaginait que ce psychologue connaissait seulement les articulations de ses désirs, les pulsations de ses indifférences, et en était toute fière. D'ailleurs, dos à la fenêtre illuminée, cette fois par midi, la brise à l'éventant, elle avait l'air d'un de ces génies dont le Manson, car il avait lu le dictionnaire Swedenborgien, connaissait aussi par leur nom chaque détail et tous les mots qui s'appliquent aux femmes, tels que gorge, soutien-gorge, etc., furent revêtus soudain dans le Manson par leur synonyme pour être surnaturel. C'est ce changement suivi de vocabulaire, rapide comme un changement de vitesse, que d'aucuns dénombrent l'amour. L'opération, par contre, fut inversée en ce qui concernait le Manson. Il portait des lorgnons à chaîne, une chaîne de montre, une épingle de cravate à perles balançantes, de sorte qu'à chacun de ses mouvements, un fil à plomb de nacre et d'or indiquait l'axe auquel le Manson renonçait. Les bijoux ne sont beaux et ne remplissent leur rôle que s'ils ont l'air d'être jaillis de la personne qui les porte. C'était vraiment pas le cas. Rien dans l'auriculaire de Le Manson qui pût être la matrice de sa chevalière à vitrail. Rien dans son sternum qui justifia cette breloque Louis XIII. Il avait plutôt l'air d'un aimant qui s'est promené dans une orfèvrerie et cet amas d'objets précieux sur lui, au lieu d'évoquer la richesse, appelait à la pensée de Juliette tous les objets utiles et vulgaires qui remplissait le véritable office dans cet habillement bretelles, jarretelles et pince à cravate. Juliette, évidemment, ne s'attendait pas à ce qu'il vînt nu, ni à ce qu'il portât un péplum ou des braies. Mais les vêtements de Le Manson semblaient avoir subi démesurément les opérations de la coupe. Partout et en tout sens couraient d'énormes coutures, comme sur le moulage en plâtre d'une statue. Si bien que Juliette eut, par de faux indices, l'impression de la vérité et soupçonna que le Manson était un faux, un moulage d'écrivain. Le Manson regardait Juliette et essayait de pénétrer par un regard en cette jeune fille inconnue. Mais le Manson n'avait qu'un talent. Il ne pouvait comprendre les femmes qu'au moment où elles abandonnent l'amour, par tristesse à cause de l'âge ou par désespoir. Dès qu'une de ses héroïnes sentait sa liaison menacée, le style de Le Manson sortait un peu de la platitude. De même dans la vie. Entre 10 femmes, Le Manson devinait celle qui s'était dans la journée découvert une ride, reconnaissait à sa rigueur ou sa pâleur la partie d'un visage nouvellement et longuement massé. Un itinéraire implacable le conduisait par les salons de la femme qui s'était teinte pour la première fois, celle qui venait de surprendre pour la première fois sa fille embrassée par un joueur de tennis. Quand on voyait Le Manson se lever de sa chaise et se diriger brusquement vers une lointaine voisine, c'est que naissait un premier cheveu blanc. Il avait exploité ce don. Il avait prétendu créer dans la littérature une annexe contemporaine au cercle des délaissés, où circulaient, au lieu de Clytemnestre et d'Hélène, celles venues d'Anjou, ou d'Algérie ou de Montmartre, que les critiques appelaient maintenant les Levensoniennes. Il regardait cette belle fille avec ses attributs de Péri, ses iris d'elfe, sa base de nez d'archange, ce visage d'une lecture aussi facile que les lettres des autobus, et il n'y comprenait rien, mais rien. Aucun indice par lequel se révéla sur ses traits les sentiments qu'il connaissait si bien sur ses favorites, ce subit dégoût des belles sorties de Paris par le bois et le parc de Saint-Cloud, qui correspond au subit dégoût d'aimer, cette haine de l'heure d'hiver qui correspond à la lassitude d'étreindre un corps qui est le désespoir d'avoir toute la vie à n'embrasser qu'un ingrat. Et surtout ce corps, il n'y avait de ride qu'une ligne de cœur, toute droite, du nord au sud, l'endroit du monde le plus éclairé, mais où le jeu du soleil et de l'ombre s'exprima avec le plus de discrétion, et une ligne de vie toute droite, de l'est à l'ouest. Juliette, d'après l'âge des portraits et des photographies dédiées à la Brançon, d'après l'âge même des femmes de bronze ou de porcelaine éparses dans la pièce, comprenait confusément l'embarras de son hôte, et elle gonflait en elle ce qu'elle devinait pour lui un mystère, sa joie, ses joues, sa jeunesse. Il la regardait comme un numismate regarde un individu qui porte dans son estomac une monnaie antique avalée au cours d'un pillage et qui lui suffirait d'extraire pour déchiffrer l'inscription qui ruinerait ou confirmerait la thèse de sa vie. Beaucoup ont tué des jeunes filles pour être enfin renseignées, mais le mensonge n'était pas sanguinaire. Il se contenta de lui dire qu'elle était une énigme. Juliette le sentait. Elle sentait aussi que les hommes, eux, avec leurs objets d'or, leurs paroles, leurs vêtements, sont moins des énigmes que des rébus. Devant cette créature autour de laquelle son esprit tournait à la recherche d'un joint, comme autour du crocodile, le mensonge, dont le talent partait des femmes d'âge, la traitait sans s'en douter, comme si elle était d'un âge supérieur à celui de ses belles amies. Familière avec les autres, il employait à chaque phrase pour Juliette le mot respect, le mot hommage, saluant, poussant des coussins, à croire que l'espoir, la confiance, la certitude du bonheur étaient pour lui les attributs d'une haute vieillesse. Juliette en profitait. Malgré son extrême timidité en face d'un grand homme, elle en profitait pour faire valoir sa voix, ses yeux, comme le diamant le plus timide profite d'être diamant quand la lumière lui arrive. Elle était venue adjurer cet homme de la renseigner pour toujours sur la vie, sur la mort. Il détenait des foudres, des bulles, mais elle ne dédaignait pas de faire valoir ses avantages de créature par ce léger chantage que le plus modeste d'entre nous aime exercer vis-à-vis même de Dieu les jours où il fait beau, où nous nous sentons en beauté et où nous remplaçons vis-à-vis de lui-même notre religion par des sourires et par des mines. Jour heureux où c'est pour Dieu que l'on relève sa voilette, que l'on dégrave son fichu, ou bien que seul on n'agit plus dans les prairies et les bois avec aussi peu de précaution que si on était devant un aveugle. Plusieurs fois déjà, Aigueperse en promenade le long de la route de Clermont, quand les riches automobiles s'échangeaient entre Vichy et Royat, dans cette lumière heureuse où elle se sentait d'une densité plus ferme, dans cet état instable où, sous d'autres âges, sa précipitation en ruisseau ou en chaîne se fut automatiquement opérée au premier regard d'un puissant du monde, sur cette limagne qui est le tapis le plus épais posé sur des grès herciniens, Juliette, juste aussi droite que ces arbres, ou qu'aucun vent marin n'incline, mais que seul arbuste qui n'a pas son côté de moussure et son côté de soleil, Juliette aimait voir les Rolls-Royce arriver vers elle, Dieu bleu, Dieu vert, Dieu carmin, comme des regards ravisseurs. Elle sentait chacun de ces beaux conducteurs inconnus et invisibles sous leurs masques l'effleurer, et comme au manège, arrivée à prendre sur elle-même, elle ne savait quelle bague, manquée complètement par cette verrière trop lente, par cet Amilcar mal tenu, bague qui ne pourrait être arrachée d'elle que par l'extrême luxe ou l'extrême vitesse. Le soleil l'adorait. Toutes ses facultés féminines d'affection, de fidélité, de reproduction étaient annihilées au fond d'elle. Elle se sentait personnifiée, non plus la jeunesse, non plus même, comme dans la revue jouée chez Madame Servant, la jeune fille d'Aigues-Perses, mais une sorte de vertu masculine et d'être mâle. Les Hispados Suiza passaient. Toutes ces belles flèches la traversaient, comme le Saint-Sébastien de son église, à tous les points du corps, mais tombant par tout un cœur entier qui montait et descendait. Juliette s'habillait pour ses promenades solitaires de toute son élégance. Elle réservait sa plus extrême coquetterie pour ce qu'il y a de plus fugitif comme union, pour cette union d'un dixième, d'un vingtième de seconde. Elle avait mis aujourd'hui la même toilette. Mais elle comprenait déjà que l'esprit, le talent, le cœur de Levençon n'étaient pas cette âme de l'âge, ce talent Renaud, ce cœur Cadillac, auquel elle était venue s'offrir comme un elfe sur la route pour une collision invisible. Et c'est comme on récite son couplet devant une sibylle sous le voile de laquelle on vient de reconnaître une tante de province, qu'elle lui posa ces questions qu'elle aurait tellement préféré poser à Larbeau ou à Mac Jacob. Qu'est-ce que la vie? Le Manson n'aimait pas les questions aussi directes. Il aurait préféré de beaucoup qu'on lui demandât son avis sur le monologue intérieur, par exemple, dont il devait parler prochainement devant une assistante de Le Mansonienne. Il n'était pas de ceux qui trouvent le moyen, en vous indiquant ce qu'ils pensent de la vie, de modifier votre conduite pour la journée et jusqu'à votre façon de prendre l'omnibus. Qu'allait-il bien dire de la vie à cette jeune fille inexperte mais exigeante, qui savait encore par cœur les 300 sous-préfectures de la France et leurs spécialités culinaires, les 300 plus grands hommes, qui tendaient à la vie une âme d'adolescente armée de ses 600 papilles avides. Le Manson préféra tourner la difficulté et se faire valoir un peu. Sa théorie de la vie, elle consistait à regarder certains êtres, certains pays, au visage et d'autres au corps. Juliette ne saisissait pas, alors qu'elle écoute. Lui, le Manson, avait jadis composé une scénette jouée dans les plus grandes villes de l'Europe, où lui-même la mettait en scène. Le deuxième tableau montrait le rideau percé de 30 trous, étalés ou superposés, où les jeunes filles et les femmes de la société passaient la tête. Au Portugal, le spectateur avait une vue inoubliable. 60 yeux admirables qui semblaient appartenir à la même personne, et l'on savait désormais ce que c'est qu'être regardé par le géant Argus. 60 lèvres ouvertes sur un ivoire qui semblait courir sous tous les corps. Toutes ces femmes avaient des crânes en ivoire, des maxillaires en ivoire. Mais qui passait derrière la scène découvrait des corps inégaux, des chevilles d'hommes, des bras sans finesse. Toutes les têtes souriaient, tous les corps se crispaient et en vain pour pénétrer dans le domaine de la lumière. Le rideau, ainsi qu'un couperet, tranchait la beauté de la laideur. Et ce fut le contraire dans tel pays scandinave. Le spectateur voyait des yeux fades et arrogants, des cheveux chambres, de larges bouches ouvertes sur des dents à mâcher des viandes. Mais le machiniste voyait 30 corps souples et parfaits, nu pour la circonstance, car pour toute opération esthétique, pour penser par exemple, le Scandinave prend la précaution préliminaire de se déshabiller. Si bien que ce jour-là, le Manson resta derrière le rideau. Dans un seul pays, il passe le même nombre de minutes dans son avant-scène et dans les coulisses. En France, ainsi est tout être. Telle est la vie. Juliette souriait. Elle trouvait son hôte naïf. Cette guillotine n'était pas pour l'effrayer. Elle sentait au contraire en elle, amicalement et indissolublement unie, ces parties du corps, si peu solidaires dans les exemples fournis par le menton, ses oreilles et ses orteils, son front et son talon, organes qui par plaisir rimaient aujourd'hui entre eux, assonance de joie vitale. Et l'amour? Elle demanda à le menton ce qu'était l'amour. Mais de quel amour voulait-elle parler? Moral? Physique? L'amour physique était une aventure tout simplement extraordinaire. C'était évidemment très particulier, un peu curieux, très spécial, mais prodigieux, inespéré. Ah, elle voulait parler de l'amour moral. Oh, ben cela ne faisait rien. Et la mort? Car Juliette sentait son avantage d'archange. Elle aurait pour rien au monde abandonné les seules armes qu'elle put brandir contre le mensonge. Trois ou quatre mots flamboyants. Le mensonge se révolta. La mort, oh, question sans intérêt. Ce qui intriguait Paris en ce moment, ce n'était certes pas la mort, c'était le monologue intérieur. Voulait-elle qu'il le lui expliquât? Avait-elle entendu parler de Joyce? Elle aurait aimé poser d'abord une question sur la gloire. Le monologue intérieur était un accès de franchise, tel que tous les revêtements imposés à l'âme, depuis Aristote jusqu'au symboliste, en étaient ébranlés. C'était ce tremblement d'âme qui secouait depuis 2 mois les littérateurs parisiens. Fallait en profiter. Avec un peu d'habileté, le moindre critique pouvait arriver à connaître la vérité sur leur méthode de travail, leur bonne fortune, leur plagiat, leur tailleur. Juliette en désirait-elle un exemple? Non. Mais si, il allait. Mais qu'avait-elle? Elle s'asseyait, elle avait un peu mal aux reins. Alors la mention fut émue. Certes, bien des femmes s'étaient déjà plaintes devant lui, comme devant un médecin. Se dévêtant pour lui avouer un remords, se dévoilant pour lui montrer un scrupule, se mettant nu pour lui raconter une haine. Mais aucune ne s'était plainte aussi simplement d'un mal physique. Il en fut touché. Il lui parut avoir devant lui la seule femme qui eût jamais été mal à l'aise en ce monde. Et alors qu'il comptait bien imaginer un faux monologue intérieur, celui qu'il avait appris par cœur pour les romances anciennes, à cause de ses reins humains exposés à ce corps de sylphe, il décida d'être sincère. Voici, il commençait. Quoi? Oh non, non, il n'y avait pas de monologue intérieur en vers. Il commençait, bien entendu, à la condition que Juliette, elle aussi, à son tour, lui en donnerait tout à l'heure un exemple féminin. Quoi? Oh, évidemment, oui, c'était une opération dangereuse pour bien des écrivains qui passent pour corrects. On ne comptait plus les fautes de français dans les monologues intérieurs d'écrivains aussi puristes que Marcel Boulanger ou les Tarots. Voilà, il commençait. Alors, au contraire du monologue intérieur, c'était le silence intérieur. Mais à cette question, il jurait de dire toute la vérité, rien que la vérité. Voici. Monologue intérieur. Il perché della caduta del Marco. Tous mes monologues débutent maintenant par cette phrase que j'ai entendue dans un tramway. Elle est stupide, mais je n'y peux rien. Vraiment, la cheville de cette jeune visiteuse est fine. Autrement fine que celle de Fedora Brandes. Être forgeron, lui forger les anneaux. Obliger cette jeune fille par des anneaux forgés à cette démarche qu'on obtient autrement que tous les 200 ans avec les jupes entravées. La dernière fois que Fedora m'a surpris avec une femme, d'ailleurs tout le monde sait que son vrai nom est Ferdinand et non Fedora, et au fait, pourquoi ne pas l'appeler Ferdinand la prochaine fois que je la verrai? Elle s'est précipitée, sans paraître nous remarquer, sur un petit tableau représentant M. Van der Kopp traducteur de Télémaque en Hollande, et l'a piétiné, mais piétiné! Oh, que diable a bégayé dans mes monologues? Oh, il perché della caduta del Marco! Ah, tiens, c'est la première fois que cette phrase me vient à l'intérieur même du monologue. C'est comme son nom de Brandès. Elle s'appelle Brandebourg. Oh, elle prétend descendre de Stendhal. C'est étonnant ce que les impuissantes descendances. Pourquoi m'obstiner à dire que j'aime Fedora? Tout me déplaît en elle. Je hais la manie qu'elle a de mettre les enfants en bas âge en éveil contre leurs parents. Je la hais d'avoir cru pendant toute la guerre que le mot race avait un sens péjoratif. Je la hais de me demander à chaque occasion, non pas si l'auteur du Cid ou l'auteur des Maximes est mort, mais ce qu'est devenu l'écrivain qui a dit pour la première fois, ceux qui partent ne sont pas à plaindre, ce sont ceux qui restent. Ou la Beauce est le grenier de la France, ou qui va à la chasse perd sa place. Elle me réclame son adresse. Elle veut me tromper avec l'auteur des truismes et le dépositaire de la sagesse des nations. Elle me demande aussi ce qu'elle peut entendre par le mot démiurge, qu'elle emploie au moins une fois à chaque repas. Mot si beau. À condition de l'attribuer avec discrétion aux dentistes et aux pédicures. Pédicure. Beau problème d'ailleurs que celui de la création du monde. Insoluble pour moi, que je me place en son centre ou à la périphérie. Il est un peu exagéré de croire que Shakespeare, Hugo, Proust ont été créés à cause de moi. Ce serait à désespérer du créateur, qu'à cause de moi, autour de moi, il ait imaginé un système solaire de génie et de talent. Aristote, Euripide et une voie lactée d'auteurs qui sont nécessaires pour la toile de fond. Bien qu'il me soit pleinement indifférent, comme saint Thomas d'Aquin et Chênedollé. Il perché della caduta del Marco, ah, la vérité! Mais cette phrase n'appartient pas au monologue intérieur, c'est simplement un tic. D'autre part, imaginez que je ne suis pas le centre du monde, mais un de ses organes, que je suis moi indispensable à Aristote, à Platon, à Descartes. C'est peut-être l'orgueil plus folle encore. Vous me suivez, mademoiselle. Juliette, hélas, suivait. Ainsi, c'était cela le monologue intérieur. Ainsi, il différait si peu des phrases que prononcent les vieillards qui parlent tout seuls. Le mensonge donnait seulement à Juliette l'impression d'une vieillesse précoce. Comme elle avait eu raison, depuis qu'elle savait parler, de ne jamais vouloir prononcer un mot qu'en présence d'une autre personne. Il y avait un témoin dans le monde à tout ce qu'elle avait dit. Ce n'est pas elle qui eût adressé la parole à un arbre, à une statue. Mais quel bavardage dès qu'apparaissait un cantonnier vivant. Une fois, évidemment, et encore, on pourrait discuter si parler devant un lapin de Garenne, c'est du monologue intérieur. Ainsi, alors qu'elle se donnait au contraire à sa pensée pour s'épurer, pour n'avoir pas avalé à chaque instant cette bouillie du langage, nourriture qui ne nourrit pas. Voilà donc, sous le manteau du silence, les monstres qui se battaient en elle. Le mensonge continuait, et par son monologue, simplement en décrivant sa maîtresse, répondait tristement à toutes les questions que lui avait posées Juliette au début de la consultation. La vie, c'était une suite d'irruptions de Fedora. La mort, c'était Fedora, avec cette haine qu'elle a des ongles longs, coupant chaque soir jusqu'à la mise en bière les ongles du cadavre de le mensonge. L'amour, c'était l'amour de Fedora. Ce n'était rien. Ce n'était pas du tout inespéré, ni curieux, ni spécial. C'était attendu. Cela faisait mal. Tuer Fedora. Ou la forcer à mesurer ses chevilles avec un mètre de tailleur. Juliette aperçut soudain au fond d'elle-même, immobile, tous ces monstres que déchaîne la confession, tous les contraires à tout ce qu'elle croyait savoir et aimer, monstres endormis mais existants, le contraire à son amour pour Gérard, à son affection pour son oncle, à son goût pour les crêpes, à sa modestie. Elle sentit tout à coup tout ce qu'un être garde et défend en se taisant vis-à-vis de soi-même, et que tout humain qui n'est pas doublé à l'intérieur par un sourd muet est la trappe par laquelle le mal inonde le monde. Elle se doubla de silence, recouvert par cette couverture les monstres qu'avait déchaîné le mensonge, le dégoût des hommes, l'appétit pour les chenilles, le désir de casser le service empire de son oncle, se contentèrent de l'agiter doucement, comme des enfants sous une toile pour faire la mer. « Mais à vous, mademoiselle !» La mensonge venait de terminer tout ému. Il avait cru, avec quelque mauvaise foi, attaquer en lui des sentiments déjà durcis, et le sang jaillissait. Ainsi, celui qui, de son rasoir, croit attaquer un durillon et attaque son cœur. Juliette souriait pour laisser croire qu'elle ne voyait dans ses aveux qu'une démonstration, qu'une leçon. Elle essaya même, par politesse, de lui obéir. Mais vraiment, cette confession à soi-même de la pensée et de la vie, elle n'y était pas plus habituée qu'un enfant de 10 ans à la simple confession. Pourquoi n'y a-t-il pas un manuel du monologue intérieur ? Jamais elle ne fut plus heureuse de trouver des phrases toutes faites. Ça aurait aussi bien pu être celle que l'on dit dans les fêtes. Il se trouva que ce fut celle que l'on prononce dans les deuils. « Cher monsieur, croyez en ma profonde sympathie. Je pense une part, une grande part. » Elle prenait une part, une légère part, à la vie physique de Le Manson, car elle avait saisi sa main. Le Manson, les yeux brouillés, se cramponnait à cette main inconnue, tendait de détresse toute son âme vers le dialogue extérieur, et comme une ombre charmante retire un passager tombé au Styx, Juliette le fit passer tout dégoûtant de pensées-paroles dans la conversation courante. Il leur sembla d'ailleurs à tous deux, en abandonnant le monologue intérieur, abandonner leur corps même, leurs viscères. Et ils se trouvèrent soudain à la hauteur épurée où le dialogue chaste et éternel prévu pour les amants étrangers qui se rencontrent dans l'improviste, au-dessus des vergues, au-dessous d'un rasoir inconnu, sur des chevaux au galop. Et en effet, des chevaux noirs galopaient vers le Manson. Un rasoir menaçant s'aiguisait sur lui. « Éprouvez-vous vraiment de la sympathie pour moi, mademoiselle ?» J'en éprouve vraiment. Et un verre de moscatel, en prendrez-vous un? J'en prendrai un. Ces expressions de Manuel, lui disaient par le contact, par la politesse, par l'aménité humaine, leur semblaient presque maintenant appartenir à un vocabulaire sacré. Ils étaient saisis par la sainteté, par l'innocuité de la conversation courante. Dans leur désir d'échapper à la ventouse du monologue intérieur, ils cherchaient les termes les plus banals, c'est-à-dire les plus rituels, et par un nombre de mots aussi restreint que le nombre des fictions et caresses par lesquelles les fourmis se disent leur chemin ou se dénoncent, le puceron le plus laiteux, chacun approchait de beaucoup plus près l'âme de l'autre. « Vous avez l'air plus tranquille, » dit Juliette. « C'est le soleil, c'est l'été. » Comme ces relations entre les sentiments de l'Anson et les astres, cette explication du calme de Le Manson, qui nécessitait seulement l'intervention des saisons et des nébuleuses, paraissait à Juliette plus satisfaisantes et simples que des raisons intérieures. Telle fut la visite de Juliette à un homme de lettres, qui aboutit à la défaite de la psychologie, de la psychophysiologie et à la mort du style. Car pour chaque geste de Le Manson, au lieu de se cacher au fond de sa conscience, la raison en apparaissait maintenant à son extrême surface. Il sanglotait. C'était ce dimanche. Il couvrait de baisers la main de Juliette. C'était ce seringat. Et déjà de ses yeux, l'image de Fedora Brandes avait disparu. C'est alors, poussant la porte avec une telle fureur qu'elle ne sut jamais s'il était ou non verrouillé, que Fedora, sans paraître remarquer Juliette et le mançon, comprimé soudain à sa vue entre le silence extérieur et le silence intérieur, que Fedora se rua sur le portrait de Madame Vanderborg, femme du traducteur du Télémaque, le lacéra, détruisit tout ce qui subsistait du couple hollandais le plus dévoué à Fénelon, et repartit sans mot dire en fermant la porte à clé pour en tirer plus tard argument dans ses scènes. Chapitre 6e. Juliette vint me voir aussi. Moi aussi, elle me traita toute une matinée, comme si j'étais pour elle le représentant au monde de l'inconnu. De ma pendule, de mes glaces, de mes tableaux, de ces objets qui, dans une atmosphère et une camaraderie commune, avaient perdu pour moi jusqu'à leur style, elle arriva à faire jaillir une sonnerie et une heure mystérieuse, des reflets, des personnages étrangement nouveaux. De ses yeux étonnés, elle ramena chaque meuble, non plus à l'antiquaire qui me l'avait vendu, cousin de Seligman ou parent de Jonas, mais à son auteur même, élève de Jean Goujon ou de La Boule, et chacun d'eux ne fut plus qu'une ventouse posée sur un siècle ressuscité. Elle avait dans mon bureau les gestes qu'on a au sommet de la tour Eiffel, s'accoudant à chaque console, à la cheminée comme à un balcon, avec ce petit vacillement que donne l'attitude de voyageuses les moins sujettes au vertige. Ou bien elle touchait avec une précaution infinie des objets de solidité à toute épreuve, encriers en bronze, bustes en marbre de la jeune amie de Caracalla, comme si elle était dans la chambre de chauffe de quelque sous-marin, à la manœuvre de quelque avion, et que le moindre geste donné à faux devait amener notre perte. Étais-je aviateur ou scaphandrier de l'inconnu? Par malheur, c'était un jour de soleil. Je m'étais levé à l'aube, personne moins que moi n'était qualifié pour se prétendre l'ambassadeur des mystères auprès d'une jeune fille vagabonde. C'était le matin d'une nuit d'été où j'avais peu rêvé. Toutes ces forces auxquelles vous vous sentez parfois adossées au réveil, ce plâtre du sommeil qui s'arrache péniblement de votre visage pour vos amis de l'au-delà, cette habitude que vous prenez dans le rêve d'une atmosphère si dense que l'air du jour vous semble le vide, que vos bras retombent, que vous retombez sans force sur votre lit, rien ne restait sur moi. Moi, ma nuit avait été claire et limpide comme le jour. Il m'avait fallu me débarrasser à ma toilette d'aucun de ces fils de la Vierge qui tendent les enfers, d'aucune ombre d'amis, d'aucune de ces parfums qui font renifler autour de nous les médiums. Mon soleil personnel était à son zénith, jusqu'à l'ombre de la mort qui s'éloignait de moi pour la journée. Juliette n'avait même plus en face d'elle cet écran à un vice ou une vertu qu'est tout homme rencontré pour la première fois. Elle n'avait devant elle que la sentinelle la plus avancée de toute la littérature française, ce matin-là, sur le front de la clarté, de la luminosité, de l'évidence. Elle essaya en vain sur moi les mots de passe qui séduisent les sentinelles de l'ombre, de la damnation, de la tristesse. Mon mot était pour toute la journée ce qu'il est pour un jeune conscrit. Mac Mahon, Messimi, Jordan, Joffre. Pour ne pas régler je ne sais quelle quittance, l'administration de Paris m'avait coupé toutes les conduites d'électricité ou de gaz qui me retenaient au passé, à l'avenir. Je vivais sur les seules ressources de la minute, de la seconde. Juliette était en face d'elle un homme éphémère. Je vivais les belles feuilles des arbres de mon jardin comme un insecte. Si bien, comme le naufragé Elpénor jeté sur l'île des Phéaciens et disputant avec la belle Nausicaa pour savoir lequel d'elle ou de lui était l'étranger, si bien que j'essayais de rejeter sur Juliette cette dignité d'inconnue dont elle voulait me parer. De sorte que l'épithète inconnu, refusée des deux côtés par politesse et par modestie, nous étions obligés, comme ces philosophes qui admettent que le monde n'est pas une illusion de nos sens et que les êtres existent en eux-mêmes, de croire chacun davantage à l'existence de l'autre, de nous sourire davantage, de nous nourrir davantage aux côtés que l'on servait. Si bien que je ne refusais pas de lire la prière sur la tour Eiffel que je venais justement d'écrire. Prière sur la tour Eiffel, c'est le 1er mai. Chaque mal infligé à Paris est guéri aujourd'hui par le grand spécialiste. Quand un plomb saute dans un ministère, c'est le fondateur même de l'école supérieure d'électricité qui accourt. Quand un tramway déraille, c'est l'équipe des 10 premiers polytechniciens qui vient le remettre dans sa voie. Chaque bourgeois, vers midi, après ses cures merveilleuses, a le sentiment que, si son bouton de par-dessus sautait, on alarmerait la rue de la Paix et l'observatoire si sa montre s'arrête. Il est gonflé de plénitude en ce jour d'ouvrier parfait, comme autant qu'il a oublié, ou pour le moindre chagrin, il altérait Schopenhauer, pour la moindre joie Rabelais. C'est que les grandes puissances sont seules aujourd'hui face à face avec les grands hommes. Le feu en face du directeur du Creusot, le gaz du directeur du gaz, la vapeur face à face avec l'école centrale. La journée de Paris que 3 millions d'ouvriers ont reposée tourne sur ces 8 rubis. C'est le 1er mai. C'est le jour où l'on reconnaît, à ce qu'elle reste active, les industries qui mourront le jour de la Révolution, qui sont purement bourgeoises et qui mourront bientôt. La maison Falise mourra ou étincelle aujourd'hui l'épée de Forain avec la grande garde de faisceaux de pinceaux et la coquille en palette d'or. La pharmacie Roberts mourra avec ses médicaments contre l'abus du Bourgogne, différent selon le cru et l'année. Paris est un étang vidé. De magnifiques étrangers, de superbes hommes d'État, des Rothschild, sautent dans les flaques ou reluisent. Le Panthéon est isolé des autres édifices par l'armée en costume et ne reçoit que les grands hommes vivants qu'il pourra plus tard recevoir morts. C'est le seul jour où l'on entend en France le burin des graveurs gratter, la plume des écrivains grincée. Tout le vacarme est fait par les métiers libéraux. Le médecin de l'usine est plus bruyant aujourd'hui que l'usine elle-même. On percevrait presque plus le grincement du soleil que celui de la terre. Le soleil est radieux d'ailleurs. Un bourgeois a dû l'appeler pour quelques panaries ou quelques généraliums débiles. Le ciel est tout bleu, les hirondelles volent, et là-haut aussi, plus haut qu'elles, deux ou trois hommes se maintiennent dans l'air sur des machines grâce à un truc. Il en est toujours ainsi, et réciproquement. L'inclination que je nourris depuis ce matin pour les hommes n'a d'autre résultat que de me faire obéir aux éléments. Le moindre vent me dirige, et au lieu de remonter la Seine, j'ai suivi son courant. Des patrouilles escortaient ce poète qui allait au travail. Et voici la tour Eiffel, mon Dieu! Quelle confiance il possédait en la gravitation universelle, son ingénieur! Sainte Vierge! Si un quart de seconde l'hypothèse de la loi de la pesanteur était controuvée, quel magnifique décombre! Voilà ce qu'on élève avec des hypothèses. Voilà réaliser en fer la corde que lance au ciel le fakir et à laquelle il invite ses amis à grimper. J'ai connu Eiffel. Je grimpe. Mon Dieu, qu'elle est belle, vue de la cage du départ, avec sa large baguette cousue jusqu'au deuxième, comme à une superbe chaussette. Mais elle n'est pas un édifice, elle est une voiture, un navire. Elle est vieille et réparée comme un bateau de son âge, de mon âge aussi, car je suis né le mois où elle sortit de terre. Elle a l'âge où l'on aime sentir grimper sur soi des enfants et des américaines. Elle a l'âge où le cœur aime se munir de TSF et de concerts dans son sommeil. Tout ce que j'aime dans les transatlantiques, je l'y retrouve. Des parfums incompréhensibles déposés dans un losange d'acier par un seul passant, et aussi fixes dans leur attitude qu'un cercueil dans la mer tenu par son boulet, mais surtout des noms de Syriens, de Colombiens, d'Australiens, gravés non sur les bastingages, mais sur toutes les vitres, car la matière la plus sensible de cette tour et la plus malléable est le verre. Pas un visiteur étranger qui ne soit monté là avec un diamant. On nous change à chaque instant d'ascenseur pour dérouter je ne sais quelle poursuite. Et certains voyageurs, débarrassés de leurs noms et prénoms dès le second étage, errent au troisième, les yeux vagues, à la recherche d'un pseudonyme ou d'un parrain idéal. On donne un quart d'heure d'arrêt sur cette plateforme. Mais pour ces 15 minutes d'isolement, Eiffel assembla tout ce qui suffit pour 11 mois aux passagers du bateau qui fait le tour du monde. 10 jeux de tonneaux, 10 oracles automatiques, des oiseaux mécaniques par douzaine et le coiffeur. Chaque exposition a laissé si haut son alluvion, un peu d'alluvion universelle. Celle de 1889, des appareils stéréoscopes, où l'on voit les négresses de chaque peuplade du Congo écarter les yeux et les seins devant un spectacle prodigieux, qui ne peut être, tant leurs surprises sont semblables, que l'aspect du photographe. Celle de 1900, des mots russes, Moscou, Kronstadt, sont montés, elles aussi, graver leur nom. Mais que le musée Galliera est beau d'ici! Comme ces disputes que mènent en bas Notre-Dame et le Sacré-Cœur, le Panthéon et la gare de Lyon, on voit d'ici qu'elles sont truquées pour amuser un peu les hommes, et qu'il n'y a au contraire entre tous ces édifices qu'accord et que consentement. Désaxés aujourd'hui par un aimant qui est sans doute l'amitié, c'est tout juste si le pont Alexandre, le pont de la Concorde, ne se rapproche et ne s'accole pas. Comme d'ici les lois de l'univers reprennent leur valeur, comme les savants ont tort, qui disent l'humanité vouée à la mort, un sexe peu à peu prédominant, et comme au contraire ils apparaissent distribués dans les rues, les voitures et aux fenêtres en nombre égal, ces hommes et ces femmes qui, la journée finie, se retirent pour engendrer et concevoir grâce à un stratagème. Que l'on travaille en ce 1er mai sur ce fait. Un radio envoie vers 4 continents, à travers moi, les nouvelles de Paris. Sur une carte, je vois délimiter son domaine, si net que par le bottin étranger, je peux connaître le nom du dernier épicier brésilien, du dernier rentier de Samarcande, effleuré par ses ondes. Tout un orchestre joue aussi pour l'univers, satisfait du seul applaudissement du gardien. Seuls les hommes de lettres ici sont sans voix. Bénie soit l'institutrice qui, lorsque j'eus 5 ans, me montrant le plus beau livre d'images et me bâillonnant hermétiquement de sa main, m'a pris à penser sans avoir à pousser les cris en 2 leçons d'une heure. Ainsi j'ai sous les yeux les 5000 hectares du monde où il a été le plus pensé, le plus parlé, le plus écrit. Le carrefour de la planète qui a été le plus libre, le plus élégant, le moins hypocrite. Cet air léger et ce vide au-dessous de moi, ce sont les stratifications, combien accumulées, de l'esprit, du raisonnement et du goût. Ainsi, tous ces amoindrissements et mutilations qu'ont subi les hommes, il n'y a plus de chance, ici plus que partout ailleurs, y compris Babylone et Athènes, pour que les évalue la lutte avec la laideur, la tyrannie et la matière. Tous les accidents du travail sont ici des accidents de la pensée. Il y a plus de chances qu'ailleurs pour que les dos courbés et les rides de ces bourgeois et de ces artisans aient été gagnés à la lecture, à l'impression, à la reliure de Descartes et de Pascal, pour que ses lorgnons sur ce nez aient été rendus nécessaires par Comines et par Froissart, pour que cette faiblesse des paupières ait été gagnée à la copie du manuel héraldique ou dans un atelier, parce que des gens n'ont pas voulu transiger avec un certain chrome ou certain écarlate, pour que ce manchot ait eu le doigt, puis la main, puis l'autre main coupée, en retenant près du radium la barque. Oh, si vous voulez, si vous avez saisi l'allusion à ce combat de vieille Salamine, la barque de Lomo, voilà l'hectare où la contemplation de Watteau a causé le plus de pas de doigts. Voilà l'hectare où les courses pour porter à la poste Corneille, Racine et Hugo ont donné le plus de varices. Voilà la maison où habite l'ouvrier qui se casse à la jambe en réparant la plaque de Danton. Voilà, au coin du quai Voltaire, le sentier où il fut gagné le plus de gravel à combattre le despotisme. Voilà le décimètre carré où le jour de sa mort coula le sang de Molière. Il se trouve qu'en ce jour de grève, où les métiers passent pour chômer dans Paris, où les ouvriers, croyant aller contre leur nature et obéissant seulement à l'habitude ancestrale, ont regagné la campagne, Paris exerce le pur métier de Paris. Et Notre-Dame et le Louvre et tous ses monuments sont aujourd'hui aussi opaques et immobiles que la roue de l'hélice tournant à 1000 tours. Mais que vois-je? J'ai pu soutenir des mots apprêtés pour des générations de héros et de géants, la guerre, la peste, le naufrage, avec rien d'autre chose qu'un courage bourgeois. Fils des citoyens de Louis-Philippe, je n'ai pas été inégal au fléau d'Attila. Mais tout ce que je croyais en moi digne des grandes époques, cet épanouissement quatrocentriste en moi de l'espoir, ce débordement rossardien en moi de l'amour, chaque année en face du printemps, ne me fournit que des armes piteuses. Le moindre bourgeon emporte sur moi la victoire. Je suis inférieur à la moindre cascade. Or, soudain, je vois le printemps entourer Paris. Par les brèches des murailles et par les avenues, il se pousse jusqu'à la Seine, et seuls les ponts sont encore sans feuillage. En ce jour de repos, le vent dans le bois de Boulogne n'est plus qu'un mouvement de croissance. Le printemps, le bois, croissent comme une mer. Sur la banlieue ressuscitée, lacs, bassins et réservoirs reprennent leur orient. De chacun des 7 cimetières, entre les verdures neuves, n'émerge plus qu'un seul monument. Paris n'avoue aujourd'hui que 7 morts et de belles filles bleues de fantassins transparaissent sous les rues en voile royale. Voilà 22 ans, Jules Descouture-Mazet, que par un printemps semblable, tu m'as hissé pour la première fois sur cette tour, en uniforme de lycée, et afin de m'offrir à la veille des concours généraux, la vue de cette cité, qu'un second prix de version grecque, disais-tu, ferait sûrement mon esclave. Évelyne était avec nous, ton amie de Genève, et tu prétendais que la Seine était moins visible à Paris que le Rhône dans le Léman. Évelyne osait te contredire. Résolue à se tuer quand on la contredisait, elle croyait tous les humains susceptibles comme elle. Tous ces enterrements, ces convois, elle croyait que c'était ceux de malheureux que leurs amis, le temps, la vie avaient contredit. Et quand on lui parlait d'un mort, l'excusait toujours, par la raison qui aurait elle-même, cette semaine-là, incité à la mort. Les canons à grêle faisaient tant de bruit. Les feuilletons du matin étaient si idiots. Les merciers qui éclairent à l'électricité les jambes en celluloïde sont si bêtes. Ainsi, par peur de ton suicide, me décrivait-elle le Rhône à croire qu'en relief, il coulait sur le lac. Tu la caressas et tu me dis « C'est à cette hauteur minima, mon enfant, que je sens sourdre, s'agiter tout ce qui correspond dans ma poitrine au manifeste écrit par nos aînés. Mon art poétique en ce moment, il lutte avec une autre possibilité qui est, je le distingue mal, mon vicaire savoyard ou mon j'accuse. Aujourd'hui, je me contenterai de te répéter, déteste les adjectifs et chéris la raison, car la vie était dure dans ta classe pour qui aimait les adjectifs. Pour toi, ils étaient dans la langue française, ce que les parasites sont dans les caves ou les bateaux. Tu n'en parlais qu'avec les expressions utilisées pour les cancrelats, les rats et les poissons morts. Et quand les adjectifs sortent du mot à la queue-leu-leu, répétais-tu, c'est que le mot vogue à sa perte. Et quand je vois au-dessus de ce lac, disais-tu encore, le soir où tu me surpris avec Théophile Gautier, tant d'adjectifs flottaient le ventre en l'air, et tu les comparais aussi aux brigands et aux gendarmes. Entre deux épithètes, prétendais-tu, le nom crucifié meurt nu et fait homme, et tu méprisais tous ces romantiques qui se précipitent quand un bonheur ou un malheur arrive à un nom, sujet de la phrase, chercher une escouade d'adjectifs. Je t'écoutais, l'oreille basse, car je les aimais. J'avais déjà vu Zéro le jour où je décrivis Fatma la belle visitant Tanger la blanche, pour me punir d'entretenir près des noms orientaux ces abcès de secours qui en soutirent l'éclat ou le venin. Et ce jour de printemps, c'était aussi, du haut de la tour Eiffel, c'était aussi de beaux adjectifs que les bateaux de Meudon traînaient pour moi dans leur sillage, doublé lui-même d'épithètes. C'était par des adjectifs que mon regard touchait Belleville, Grenelle, et ces quartiers que tous les 10 ans, ravalage ordonné par les lois, les écrivains naturalistes barbouillaient alors d'adjectifs nouveaux. Rassure-toi, j'ai fait des progrès depuis, comme tous les autres élèves. Terrorisé, laissé seul dans l'aide d'épithètes, en face de tous les noms communs et propres que tu me permettras bien de comparer à des serpents, à des ginettes ou à des orchidées, nous n'en tirions plus que par les métaphores. Toute la classe passait son temps comme un poste téléphonique à relier les noms les uns aux autres par des directs électriques. Le plus cancre distinguait ces signes lueurs, invisibles aux autres classes, que se faisaient à distance cette année-là dans Châteauroux, l'objet positif et l'objet négatif, et le plus prosaïque d'entre nous, le soir, quand il se dévêtait, confiait son corps nu non plus aux adjectifs, mais aux métaphores de la nuit. De sorte que plus tard, chacun dans sa profession, nous t'avons de bon ou de mauvais gré obéi. Cela se voit surtout chez moi, qui passe par mal de soirées avec les noms eux-mêmes. Mais la partie du Berry, limitée par la Brenne et par le Bourbonnais, recèle depuis cette époque des pharmaciens, des receveurs de l'enregistrement, des rentiers qui ne parlent que par métaphore. Certes, parfois me tente un bel adjectif coloré, luisant. Tu me permettras de donner des épithètes à ce nom-là. Mais le plus souvent, je résiste, car j'ai l'impression que tu me l'envoies des enfers pour me tenter avec un miroir de poche. Mais pour la raison, maître, j'ai peur de t'avoir moins suivi, que tu nous la dépeignais belle pourtant à cette époque. C'était l'année du photographe, phonographe, triomphe de la raison. Les membres de l'Académie des sciences écoutaient encore devant le cornet. Fiers d'être hommes, voluptueux d'être savants, les chansons de Paulin. Certes, il ne s'agissait pas de prétendre que l'intelligence de Dieu et celle des hommes est la même, mais on pouvait hardiment prétendre que celle des hommes était celle de Dieu divisée par le nombre exact d'étoiles, et c'était là un minimum. Que la terre devenait douce à fouler, la vie douce à vivre. Quand on s'expliquait ce qui s'y passe, affirmais-tu par la raison. Ces oiseaux mécaniques dans cette tour chantaient par une grâce de la raison. D'ici, tu promenais tes yeux heureux sur le cirque d'hiver, le club paléontologique et les champs de course raisonnables. Par raison, dès que l'univers avait fui, le printemps revenait. Et tant l'étoile polaire était bleue, par raison, l'on désirait mourir. Que la Seine était belle aux environs des Andelys, quand par raison, elle fait 12 boucles dont chacune contient une station de train et une église. Que les femmes étaient belles quand, raisonnables, elles nous cédaient leurs chapeaux avisés, écrasés sous elles, et les rideaux tirés sur l'intelligente lune. Un visage était pour toi le cachet de la raison. Tu étais d'une cire sur laquelle chacun marquait. Tu portais toutes les initiales de l'humanité. Tu étais fier d'elle. Pas un seul visage qui ne te parut un miroir. Dans les foules, tu te regardais à la dérobée sur chaque tête voisine. De chaque homme, tu étais fier comme le parent d'un grand homme est fier de son parent. Le fait d'être homme primait pour toi le fait d'être Bayard ou Spinoza. Tu continuais avec bonheur, par la correction de nos copies et de nos leçons, à faire la course avec cet être d'une autre planète sur laquelle tu te sentais en avance de l'invention du feu, des marmites suédoises, des stylos. Et surtout, oui, tu parlais souvent d'elle, car ton père était marinier, des écluses. Qu'elle était belle et sensée, la planète qui a des écluses à ses fleuves, ornée d'échelles à haloses. Quel beau miroir, sans parler de l'écluse elle-même, que le visage d'un éclusier. Que dirais-tu de voir aujourd'hui la plupart de ces visages autrefois clairs, balafrés de cicatrices, de rides, comme ces chèques qu'il faut avoir déjà un trésor quelque part pour toucher? Je te l'avoue, je ne sais plus où est ce bien des peaux. J'ai perdu la preuve de cette identité qui te permettait de toucher aussitôt en fraternité et en joie tous ces mandats fournis par la rencontre d'un être vivant, surtout d'un ingénieur des ponts et chaussées, et aussi d'un poète, écluse du langage. C'est alors que la guerre éclata, que tu y fus tué, que l'obus laissa de toi à peine de quoi remplir une boîte d'olivet, un jour d'hiver éclatant de lumière et de raison, et presque le jour anniversaire de la mort de Renan, dont l'atome le plus modeste eut ainsi par toi une seconde et derrière mort absolue. Mais voilà que le même rayon, comme le chien qui vient et revient mordir un passant pour la mère à son maître évanoui, à fixer enfin mon regard sur ton cimetière. Mais que veux-tu de moi? De quelle réponse, réclamé jadis ou maintenant par toi, te suis-je encore redevable? Oui, ce sonnet sur les saumons que tu trouvas dans ton pardessus et dont l'auteur imaginait les alevins remontant dans le fleuve biblique le jour où le fleuve remontait lui-même à sa source et engageant un match avec le miracle. Oui, ce sonnet était bien de moi. Oui, cette photographie d'un portrait d'Evelyne, portrait d'elle-même, disais-tu, de Lavallière. Cette réplique vivante d'Anne de Bretagne, si semblable à la Reine Blanche, les femmes au fond sont la même femme, elle était de moi. Toutes ces préférences que tu tentais en vain de me faire avouer, je te les livre aujourd'hui. Oui, je préférais, je puis te le dire depuis qu'elles ont pris de l'âge, elles aussi dans ma pensée, je préférais Nausicaa à Antigone. Et te rappelles-tu ce jour où tu me donnas l'ordre de choisir entre le stoïcien et l'épicurien, et où je ne pus t'obéir, aimant les deux? Oh, tu en étais indigné! Tu me dis qu'il était interdit et indélicat de chérir à la fois la souffrance et le plaisir, qu'alors on n'en finirait plus, et que c'était d'ailleurs un manque de tact, que seul Adam, à la rigueur, avait ce droit avant l'histoire du serpent. Bien aujourd'hui, je vais tout avouer, et tu verras pourquoi tu m'avais distingué parmi des élèves, et tu verras d'où vient ce que j'écris. C'est justement que j'ai un poids de moins à porter. C'est que je vis encore, comme l'autre, dans cet intervalle qui sépara la création et le péché originel. J'ai été excepté de la malédiction en bloc. Aucune de mes pensées n'est chargée de culpabilité, de responsabilité, de liberté. Toutes ces catastrophes qu'a provoquées la faute, meurtre d'Abel, guerre de Troie, réforme, construction des grands magasins de la Samaritaine, je peux m'en laver les mains, moi seul au monde, je n'y suis pour rien. Je ne sais quel lignage je suis passé à travers les filets des mille générations, ne gardant l'empreinte ou l'odeur ni de la babylonienne, ni de l'athénienne, ni de la carolingienne, à travers les mailles du repentir, du désir. Je vois les meubles anciens du monde comme Adam Lévi, les arbres, les étangs sans tache originelle, et les meubles modernes, téléphone, cinéma, auto, dans leur divinité. Je suis un petit messie pour les objets et les bêtes minuscules. J'emploie certains mots, certains adjectifs aussi, amis, comme les employait Adam. Je suis un petit messie pour 3 ou 4 phrases. Seul, je puis apercevoir, ça et là, l'être, l'insecte, la tache de soleil qui a eu dans sa catégorie bonsoir heureux et échappé à la parole maudite. Je suis un petit messie pour les taches de soleil. Il s'ensuit que je n'ai guère pu contribuer au progrès de l'univers depuis Adam et Ève. Je n'ai contribué en rien à l'établissement d'un plan cadastral raisonné des terres arables. En rien au perfectionnement du siphon des pipes-sondes pour l'extraction des pétroles, en rien au passage de la hotte à la brouette, ou à la table des logarithmes, ou au cloisonnement des carnets d'importation. Je n'ai contribué en rien à l'invention des coffres-forts et de leur système, ni à celle des briques ignifugées, ni à l'édulcoration des sous-produits de la térébenthine. Les quelques modifications que l'on me doit ici-bas sont celles que j'aurais apportées au jardin d'Ève. Une certaine manière neuve d'approcher les enfants, les petits animaux, et de parler d'eux en leur présence. Une certaine manière d'offrir, au lieu de votre bouche à une autre bouche, votre langage à un autre langage. Mais l'on me doit surtout la publication de ce journal, qui donne les nouvelles précises, non des hommes immuables par définition, mais de tout ce qui est, par rapport à eux, éphémère, c'est-à-dire les saisons, les sentiments, les dignités non humaines de l'univers, et vous tient au courant des maladies et des prospérités qui affectent, par exemple, l'honneur, l'automne et les périssables constellations. Je suis le rédacteur du premier journal, le vrai, de cette race immortelle si malheureusement déposée sur une planète condamnée sans espoir. De là vient, dans le raid des autochenilles, d'inconnu et d'inutilisable que j'étais au départ d'Alger, que mon influence croissait à chaque kilomètre de désert. Mes compagnons reconnurent que dès que je donnais des signes d'intelligence ou que je bavardais, nous nous rapprochions du bonheur et du sol primitif. Il y eut un soir au sud de la Guate, où personne ne put parler que moi. C'est que nous étions campés sur l'affleurement d'un terrain non condamné par Jéhovah. C'est que tous étaient heureux. Cela m'est arrivé aussi une fois dans une réunion d'amis près d'un bois à Argenteuil. Je suis le sourcier de l'Éden. Cela durera son temps, car il est très possible que j'en sois chassé moi aussi. Ce sera du moins pour mon propre compte. Mais le gardien du troisième étage m'avertit que le dernier de ces ascenseurs, qui renouvelèrent chaque quart d'heure les passagers de mon bateau, va descendre dans une minute. Il m'a surveillé d'abord, inquiet sur mes desseins, puis rassuré, m'a raconté les deux derniers suicides. Ils sont de la semaine. Deux hommes. Chacun d'eux sauta sans mettre les mains, tant les sports se généralisent. Cela va bientôt faire la centaine depuis la fondation. Surtout des hommes. L'école dure sans s'y incommode, aurait répondu Evelyne. Fin. de la prière sur la tour Eiffel.